Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons chanté ce chant qui dit « Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît ». Et je voudrais que nous commencions par cette lecture dans le psaume 139, s'il vous plaît, au verset 1, au chef des chantres de David, psaume. « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais que je m'assieds et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps, n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Et au verset 23, s'il vous plaît. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Quel psaume merveilleux que de savoir tout ce qu'il dit, c'est-à-dire que Dieu a une science infinie, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Je pourrais multiplier les mots pour parler de la connaissance de Dieu. Dieu connaît tout sur tout. Et ce chant qui disait « Dieu connaît même nos problèmes, il connaît nos pensées, il connaît tout ». Le psaume 44, verset 22 disait « Dieu connaît les secrets du cœur ». Genèse au chapitre 6, au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal ». Qui peut connaître les pensées du cœur ? Personne. Il n'y a que Dieu. Et même, nous on pourrait dire, il entend les pensées, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais la Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté, et il vit que toutes les pensées du cœur des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu voit dans nos cœurs, il y lit comme dans un livre ouvert, rien ne lui est caché, rien ne lui échappe, il nous connaît mieux que quiconque. Est-ce que vous connaissez le nombre de vos cheveux ? Ah non. 150 000 pour Monsieur Gault qui dit mieux. Vous comprenez ? Personne ne connaît ces choses. Dieu les connaît. Qui sait ce qui est bien pour nous ? On pourrait dire, moi j'aimerais avoir ça, moi ce qui me plairait, c'est ça. Mais qui sait mieux que Dieu ce qu'il nous faut pour être épanoui, pour être heureux ? Personne. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et le Fils de Dieu, Jésus, pouvait connaître quelqu'un sans l'avoir vu. C'est prouvé ça. Dans le livre de Jean, au chapitre 1 et au verset 47, il nous est parlé de Nathanaël. Jésus voit un homme arriver près de lui, il dit « Voilà un homme en lequel il n'y a point de fraude ». C'est merveilleux ça. Jésus même arrive à connaître les personnes sans les avoir vues. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce chant disait que Dieu connaissait nos problèmes, nos secrets, nos difficultés. Mais il y a une clé, il y a quelque chose qu'il faut changer. Si Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert, il voudrait que notre cœur, notre vie, au lieu d'être simplement un livre, il devienne un journal. Dieu voudrait écrire les pages de notre vie. Est-ce que ça vous plairait que ce ne soit plus des pages écrites au hasard ou par vous-même ? Combien de fois on se manque ? Combien de fois on se loupe ? On croit que cette direction est la bonne ? On croit que tel choix est le bon ? Mais au final, on a échoué. On s'est trompé. Alors, j'aimerais simplement partager cela ce soir. Et si Dieu pouvait écrire dans notre cœur, pouvait écrire dans nos pensées, écrire notre vie et nous conduire. La Bible nous dit que la parole de Dieu Ta parole est une lampe sur mon sentier. Vous connaissez ce verset? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Un guide. La parole de Dieu va être un guide. Elle est un guide pour nous. Qui l'écoute? Ce soir, peut-être quelqu'un est là, n'a jamais fait cas de ce que c'était que la Bible. On a entendu parler. Mais j'aimerais vous dire, cette parole de Dieu peut vous aider dans votre vie et peut permettre à Dieu, par sa parole, par son esprit, d'écrire sur les pages de votre vie. Vous connaissez la différence entre un livre et un journal. Journal intime pour les filles, journal de bord pour les garçons, peu importe le nom. Un livre et un journal. Un livre, une histoire est écrite, on lit, et puis c'est bien, soit ça nous plaît, soit ça ne nous plaît pas. Peu importe, mais c'est écrit. Un journal, les pages sont blanches, et elles s'écrivent au fur et à mesure. Au fil des journées, on peut y écrire. On peut y écrire dedans. Et Dieu voudrait que ce soit lui qui raconte l'histoire de notre vie. Et quelle histoire, si c'est lui qui l'écrit. Amen, qu'est-ce que vous en pensez? Alors premièrement, comment écrire? Il faut qu'il y ait de la lumière. On ne peut pas écrire s'il n'y a pas de la lumière pour nous éclairer. Alors il faut que Jésus rentre dans notre cœur. Il est la lumière. Dans Jean chapitre 1, Jésus dit « Je suis la lumière ». Il était la lumière. Et il l'est encore aujourd'hui. Il veut rentrer dans nos cœurs. Et quand il fait jour, Dieu peut enfin commencer son travail. Ce que Dieu fait, c'est incroyable. Ça nous dépasse. Je vous raconterai une petite anecdote. Un homme, un jour, voulait servir Dieu. Il aimait tellement Dieu qu'il voulait témoigner autour de lui. Et il prend le train. Et alors qu'il est dans le train, et vous savez, il y a des places dos à dos, mais il y a des places, certaines fois, à certains moments, où il y a quatre places, par exemple, en face. Vous voyez? Deux d'un côté, deux en face. Et cet homme, il va dans le train, il ne reste plus qu'une place qui est en face d'autres personnes. Alors il s'assoit et il entend deux jeunes hommes qui discutent sur Dieu. Et l'un dit, oui, ça c'est des balivernes, ce n'est que des histoires, c'est que de la fantaisie, c'est bon pour les grands-mères, c'est pas bon pour nous, ça, on est jeunes, faut s'amuser. Et l'autre, tu dis, oui, puis t'as raison, et puis il commençait à avoir une discussion, etc. Et lui, il était en face, il s'est dit, Seigneur, tu m'as placé là, il faut que je parle. Alors il commence à sortir sa Bible, toute belle Bible, et tout. Il sort la Bible, et commence à vouloir parler à ces jeunes hommes, et tout, et dit, voilà, voyez ce qui est marqué, alors il essaie de discuter, mais les jeunes sont rebelles, ils veulent pas du tout écouter, et puis, ils veulent pas être dérangés, tout ça, ils regrettent même très vite d'avoir engagé une telle discussion, et puis lui, il essaie, bon, puis au bout d'un moment, il dit, ben, est-ce que vous voulez que je vous la donne, ma Bible? Il allait jusqu'à donner sa Bible, mais pas grave, il s'en rachèterait une autre, il dit, vous voulez la Bible? Et puis il l'attend comme ça. Et un des jeunes hommes, vous savez ce qu'il fait? Il prend la Bible, il la jette par la fenêtre. Oh, c'est quelque chose, ça, quand même. On pourrait dire, eh bien, celui qui voulait témoigner a échoué. Il a échoué. Il a même perdu une Bible. Le train avait commencé à se mettre en route. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il allait savoir des années, ou des mois, ou des années plus tard, je ne me souviens plus, c'est que cette Bible qui a été jetée est tombée sur la tête de quelqu'un. Elle est tombée sur la tête de quelqu'un, et cet homme a reçu une Bible comme ça sur la tête. Il s'est penché. Il l'a ramassé, il a commencé à la lire, il s'est converti, il a compris ce qui était marqué, il a donné son cœur à Jésus et il est allé à l'église. Et un jour, je crois qu'il rendait témoignage ou qu'il disait qu'un jour il a reçu une Bible sur la tête et qu'il s'est engagé avec le Seigneur, qu'il a rencontré Dieu comme ça. Est-ce que c'est pas beau comme histoire? Dieu, il n'utilise pas des moyens incroyables. Un jour, quelqu'un qui était handicapé était en fauteuil roulant et il voulait servir Dieu. Il a dit, moi je veux être utile, moi je veux que Dieu, eh bien... C'est un peu, si je pouvais dire ça, Dieu écrive les pages de ma vie, qu'il écrive tout ça, et il savait pas comment servir Dieu. En fauteuil roulant, il pouvait pas trop se déplacer, tout ça, très fragile, au niveau de sa santé, il a dit, mais comment je vais faire? Et puis il a eu à cœur une idée, il a dit, je vais écrire sur des papiers, comme ça, des versets, je vais recopier sur des papiers des versets de la Bible, simplement. Et il a commencé à recopier des versets, et comme il habitait à l'étage, il lançait ça par la fenêtre. Ouais, les fenêtres, c'est sympa quand même. Et puis, il lançait ça par les fenêtres, il lançait ça. Et puis, les versets tombaient dans la rue. Et un jour, quelqu'un est tombé sur un des versets. Par terre, il l'a lu, il a été touché par ce qui était marqué. Et il s'est engagé avec Dieu. Il a pu rendre témoignage et on a fait le rapprochement. Comme quoi le Seigneur, lorsqu'on lui laisse les clés, lorsqu'on lui laisse la plume pour écrire notre vie, notre destinée, que son plan, en fait, qu'il a déjà... en lui, dans ses pensées, qu'il puisse l'inscrire vraiment, véritablement, pour que ça s'accomplisse, eh bien, des choses extraordinaires peuvent se faire. Dieu veut écrire plusieurs choses dans notre vie. La première que j'ai notée, il veut inscrire sa vérité. La chose la plus importante, la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu veut qu'on connaisse la vérité. pour qu'on puisse faire un choix après, mais d'abord qu'on sache la vérité. Dans Psaume 51:6, il est dit ceci, c'est le 8, selon les Bibles, les versets sont décalés, il est dit ceci, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais donc, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » La première chose que Dieu veut mettre au fond de notre cœur, c'est la vérité. La Bible dit, peut-être c'est un encouragement pour quelqu'un, enseigne l'enfant dans son jeune âge et dans sa vieillesse, il s'en souviendra. Peut-être que la vérité, la semence qui a été semée, qui a été cette bonne nouvelle de l'Évangile, la parole de Dieu qui a été semée dans les cœurs, ne paraît pas porter du fruit dans l'immédiat, mais avec le temps. Eh bien, on voit quelque chose, et quelqu'un même aux dernières secondes de sa vie peut se souvenir de cette vérité qu'il a reçue dans son cœur, ça peut porter du fruit et le sauver, parce que le but des réunions, le but de ces rassemblements, le but de Dieu, c'est de sauver les hommes, c'est de faire du bien, d'arracher les hommes à leur triste sort, et il veut faire du bien. La première chose qui est importante, c'est que la vérité rentre dans nos cœurs. La vérité, comme je l'ai un peu dit, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 17:17, Jésus disait « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et cette parole nous annonce une bonne nouvelle. La vérité, c'est quoi? C'est que pour que nous puissions être sauvés, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie. Il est mort. Il a souffert. Il a eu des douleurs. Il a eu des angoisses. Il a été moqué. Il a été meurtri, frappé. Jésus a connu tant de choses. Il a connu les ténèbres. Même sur toute la terre, au moment de sa mort, il y a eu des ténèbres. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu des choses, toutes sortes de choses qui se sont passées. Et on voit que Jésus, en fait, a souffert à notre place. Parce que ce par quoi il est passé, la croix, la mort, c'était ce que nous méritions. À cause de nos offenses, à cause de nos péchés, nous méritions la croix, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit. Et elle nous dit que nous sommes tous pécheurs. Alors il fallait que Jésus-Christ descende et qu'il meure à la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Le péché, c'est quelque chose qui nous salit. Et il faut que nous soyons lavés pour entrer dans le ciel. Lavés comment? Dans le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. C'est la vérité que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes et qu'il a fallu que Dieu envoie son Fils sur la terre pour qu'il meure à notre place. Et quand on reçoit cette vérité, quand on l'accepte, quand elle est inscrite dans notre vie, dans notre cœur, eh bien il y a un mot qui s'inscrit aussi avec, c'est le mot « pardon ». Pardon. Le Seigneur, il veut inscrire dans notre vie, il veut qu'il y ait quelque chose d'évident, c'est que nous portions sur notre visage le fait que nous sommes pardonnés. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est pas vrai? Quand quelqu'un est triste, ça se voit sur son visage. Pourtant, c'est des sentiments, c'est quelque chose qui pourrait rester caché, mais on le voit sur le visage. Quand quelqu'un est joyeux, ça se cache encore moins, ça. On est là, on sourit, ça pétille à l'intérieur. Et on voit que ce qui se passe dedans se voit à l'extérieur, et Dieu veut inscrire le mot « pardon ». J'ai passé la visite médicale mardi, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, monsieur Go. En tout cas, moi je l'ai passé, je passais devant cette dame-là, cette dame de ce médecin, et elle commence à me poser les questions. « Alors, votre cœur, il va bien ?»« Oui, mon cœur, il va très très bien. »« Alors, votre cou, vous avez pas mal au cou, au dos, vous savez ce qu'il demande, hein, toutes ces questions. Eh, »« Très bien, très bien. » Et elle voit « Pasteur, elle dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Elle dit, comment ça se fait? Je sais pas souvent que je vois un pasteur à la visite médicale. J'ai dit, ben oui, c'est comme ça. Et puis, elle commence à me poser des questions sur ma foi, tout ça. Et croyez-moi que j'ai eu de la joie à lui partager ce que j'avais dans le cœur, ce que j'avais reçu. Et j'avais un sourire de pouvoir partager. J'ai prié pour ce rendez-vous, que je puisse témoigner à cette dame. Dieu m'a exaucé. Quelle joie. Et elle me disait, alors, vous savez, on est là, on passe un moment ensemble. Et un moment, elle me pose la question, après toutes sortes de questions. Et le dos, ça va? Oui. Et le cou, ça va? Oui. Et vous fumez? Non, Dieu, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et elle me disait, ah bon, il y a combien de temps? Il y a plus de 6-7 ans. Ah, d'accord, ben c'est bien et tout. Je fais, oui, c'est Jésus. Comme ça. Et puis toutes sortes de choses. Que je lui parle et elle me dit, et le moral? Je fais, encore mieux que le reste. Alors elle rigole. Et puis elle me dit, ah, c'est bien ça. Et je sors de la cabine et je lui dis, je suis sauvé, qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus ? Alors elle s'est mise à rire, mais j'avais vraiment un sourire, une paix. Elle me dit, mais moi aussi je crois, je suis impeccable, on est deux. Mais j'étais vraiment content, on a pu partager. Et à la fin, elle voulait me poser des questions, mais il y en avait 5 ou 6 qui attendaient derrière, ça faisait déjà un moment qu'on parlait. Elle m'a dit, bon, allez, ne changez pas. Je dis, ça risque pas. Voyez, que le pardon qui est inscrit dans notre cœur, ce pardon qu'on a reçu, puisse se lire à l'extérieur. C'est ça que le Seigneur veut faire. Dans Psaume 130, au verset 4, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Qui pourrait tenir devant Dieu s'il n'était pas venu lui-même à nous pour nous pardonner et oublier nos péchés ?» C'est ce que Jésus veut faire. Il veut oublier tous nos péchés du moment qu'on accepte ce pardon. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est un saint respect pour Dieu. Amen. Amen. Il veut y ajouter autre chose peut-être, guérison ou restauration. Le Seigneur veut nous guérir, il veut que dans notre vie, dans les pages de notre vie, on puisse dire j'ai été guéri de quoi ? De la peur. Est-ce que Dieu peut guérir de la peur ? Est-ce que ce n'est pas un mal qui est là dans notre monde quand on entend les nouvelles, la peur, etc. Il y a de bonnes raisons d'avoir peur bien des fois. Mais Dieu veut nous guérir, il veut même restaurer. Parfois on a été blessé, Dieu veut nous restaurer. Et dans la guérison, il peut y avoir aussi la guérison physique. Dans Matthieu 8, au verset 2, je vous invite à le prendre avec moi, l'évangile de Matthieu donc. « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voilà. Le Seigneur, c'est simple. Le Seigneur, il guérit, il peut guérir même nos maladies, même nos blessures physiques. Le Seigneur peut les guérir, il peut nous venir en aide. Et il veut qu'aussi dans notre vie, peut-être, on puisse avoir un témoignage. Le témoignage, qu'il y ait des pages qui aient été écrites, qu'on puisse tourner de temps en temps pour nous rappeler. Oh, ah, je me souviens, j'avais ça. Moi, je peux dire, j'avais l'hépatite B. Dieu m'a guéri, c'est parti. Et nombre de choses que je pourrais citer. Et voilà. Dieu m'a guéri. Dieu peut guérir physiquement. Et Dieu peut restaurer. Et un autre texte, on va le prendre dans Jean, au chapitre 8 aussi, au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Qu'est-ce que vous en pensez ? La situation de cette femme est triste. Voilà la situation. Eh bien, c'est que cette personne a commis quelque chose qui mérite la mort. Elle a péché. Et le salaire du péché, on l'a vu juste avant, c'est la mort. Voilà, ça, c'est la loi qui tue. C'est la loi. Eh bien, le Seigneur, là, qu'est-ce qu'il va répondre ? Il va répondre quelque chose, simplement. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Premièrement, il dit à chacun, voilà, ben, vous allez prendre votre responsabilité. Avant que je réponde, vous allez prendre votre responsabilité. Voilà, il y a la femme qui est au milieu, là, devant tout le monde, que le premier qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Parce que c'est bien de poser des questions au Seigneur, mais lui, il veut que chacun, on réfléchisse à ce qu'on ferait. Qu'est-ce que ça mérite ? Ah ! Et là, il réalise que personne n'est sans péché. Et du plus petit au plus grand, ou inverse, je ne sais plus, eh bien, il est dit qu'ils partirent, les uns après les autres, accusés par leur conscience. Ils sont accusés par leur conscience, ils partent, et Jésus répond aussi, comme on l'a lu, « Je ne te condamne pas non plus, va ». Et ne pêche plus. De cette femme qui méritait la mort, qui était dans un moment sûrement d'angoisse, elle devait se demander ce qui allait lui arriver, elle devait se poser la question, mais là, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Jésus, il dit, voilà, de ce qui t'attendait la mort, tu vas passer à la vie, va, je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Est-ce que ça veut dire que Jésus aussi était pécheur, et qu'il a voulu dire, va non plus, moi, je te condamne pas, parce que moi non plus, je me sens pas de te lapider. Ça n'a rien à voir. La Bible dit que Jésus était parfait, saint, sans péché. Sinon, d'ailleurs, son sacrifice, le don de sa vie, n'aurait eu aucune valeur pour nous aujourd'hui. Mais au contraire, lui qui pouvait, il nous enseigne quelque chose. C'est que l'amour surpasse bien des choses. D'ailleurs, surpasse tout. L'amour surpasse. Les péchés là ou là, le péché abondé, la grâce surabondée, la grâce vient de l'amour de Dieu. Va et ne pêche plus. Voilà ce que Jésus demande. Dieu veut restaurer ce paralytique, ce lépreux, il était là, il devait crier devant lui, impur, impur, il était chassé du milieu du peuple, il vivait à l'écart, il devait surtout pas se mélanger avec sa famille même, et de cette situation de paria, de mis à l'écart, il est restauré, guéri, et il est remis dans sa famille, il est complètement guéri. Autre chose que le Seigneur veut déposer dans notre cœur, veut inscrire dans le journal de notre vie, c'est des lettres et des paroles d'amour et de paix. Dans Jean 3:1, il est dit « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, à condition bien sûr que nous ayons accepté le pardon de Jésus par son sacrifice à la croix. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et plus je lis la parole, plus je remarque que toute la Bible est une lettre d'amour de la part de Dieu. Il ne voulait pas qu'on se perde, il ne voulait pas qu'on meure à cause de notre péché, alors il voulait nous donner la vie, et il nous a donné tout ça, tous les conseils qu'il fallait, toutes les paroles qu'il fallait, et il veut que ces paroles, elles s'inscrivent dans notre cœur, qu'elles viennent, et ce sont des paroles d'amour, d'avertissement, de bons conseils. Il ne faut pas rejeter cette parole, car nous rejetterions l'amour de Dieu et ce qu'elle nous donne en bénéfice. Dans Romains 5:5, il est dit aussi « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu donne son Saint-Esprit. Et on l'a chanté, Jésus baptise du Saint-Esprit, il donne son Saint-Esprit. Et même son Saint-Esprit est là, Jésus est au milieu de nous. C'est ce que dit le texte cet après-midi. On se rappelait que comme on ne voit pas le vent, mais on sait qu'il est là, on le sent, on voit ses effets. Eh bien Jésus, si on ne le voit pas de nos yeux, il est là aussi. On peut sentir ses effets, on peut voir son effet dans la vie de chacun d'entre nous, dans notre vie, personnellement aussi. Et son amour est répandu par son esprit. Amen. Jean 14, 27 disait, Jésus parle et dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Ce que Jésus le donne, il le donne en abondance, parfaitement, autant qu'il y en a besoin, il n'y en a jamais en insuffisance, au contraire, il n'en manque jamais, il y en a en abondance pour quiconque en a besoin. Amen. Autre chose que Dieu voudrait mettre peut-être dans notre cœur, peut-être quelqu'un dans le cœur de quelque chose dans le cœur de quelqu'un ici ce soir, c'est de la joie. De la joie. Quelqu'un peut-être manque de joie et Dieu veut mettre de la joie dans nos cœurs. D'ailleurs, il nous encourage, nous qui sommes déjà joyeux, à chanter. C'est pas dit ça dans la parole ? Jacques 5:13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Il prie aussi s'il veut, mais qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un est dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Est-ce que c'est pas ce que Marie a fait ? Marie, quand un ange est venu la voir pour lui dire, voilà, tu vas être enceinte, Dieu t'a trouvé, il nous a dit que c'était une femme pieuse, une femme donc qui aimait le Seigneur, qui marchait selon ce que le Seigneur lui disait, ce que Dieu mettait dans son cœur, et Marie, elle se met à composer un cantique, on pourrait le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1, au verset 46 et 56. Psaume 40 au verset 3 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Pourquoi on chante ? Pour disposer nos cœurs, certes, mais aussi, bien des fois, on peut chanter parce qu'on est dans la joie, heureux d'être sauvé, la joie du salut. Vous connaissez ça ? La joie du salut ? Ma maman, elle m'a toujours raconté ça. Elle m'a dit que quand elle s'est convertie, elle avait 15 ans, sa maman venait de mourir 15 jours avant et elle était déjà venue à l'église. Et elle avait été touchée, mais sa maman est morte, ma grand-mère, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est retournée à l'église, et là le Seigneur l'a touchée. Le Seigneur l'a transformée, il a allé au plus profond de son cœur. Quand elle est passée par ce moment de souffrance, de déchirure, pourquoi maman est partie dans un accident de voiture ? Peut-être on a plein de questions comme ça. Elle dit que, en tout cas, elles avaient eu un dialogue sur le Seigneur, et que sa maman se posait beaucoup de questions. Et moi je crois que Dieu peut permettre à la dernière seconde qu'on réfléchisse, et qu'on se repente, et qu'on soit sauvé. Demander pardon pour ses péchés, et on est sauvé. Et elle disait que ce jour-là, quand elle a donné son cœur au Seigneur, elle est rentrée. Maman était dans une grande dépression. Tous les jours, elle fermait les volets, elle passait sa... À part quand les moments où elle était à l'école, elle passait son temps derrière, dans sa chambre, avec les volets fermés, tout ça. Elle était triste, une grande tristesse. Le jour où elle s'est convertie, où elle a donné son cœur au Seigneur Jésus. Elle a d'abord demandé pardon, et puis elle s'est convertie vraiment, elle a donné son cœur, elle a dit, je suis rentrée, la première chose que j'ai faite ce jour-là, j'ai ouvert les volets, la lumière est rentrée, et je me suis mis à chanter de tout mon cœur les chants que je venais d'entendre. Je ne connais pas toutes les paroles, mais elle dit, j'en ai inventé, au Seigneur, ça bouillait dans mon cœur. Et elle dit, je chantais faux, très très faux, mais je chantais. Je ne pouvais pas m'en empêcher parce que j'étais sauvé. Eh bien, même si on chante faux, est-ce que c'est interdit? Même si on ne sait pas trop chanter, comme la Castafiore, je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas chanter de tout notre cœur? Bien sûr, il ne faut pas avoir honte. Hein. Au contraire, ça plaît au Seigneur. Quelqu'un qui chante en son honneur, qui chante son salut. Amen. L'autre chose que Dieu veut inscrire, il veut y révéler un avenir et une espérance. Dans les pages du journal, Dieu veut nous parler d'avenir. Beaucoup de personnes ne croient plus en l'avenir. Beaucoup de personnes n'ont plus d'espérance. Beaucoup de personnes croient qu'il vaut mieux arrêter là, stopper la vie, parce que ça ne vaut plus la peine d'être vécu. J'aimerais dire à ces personnes-là que si Dieu a la plume de votre vie, il va y écrire des paroles d'espérance, des paroles avec un avenir. Et c'est ce texte que nous connaissons bien dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Quel merveilleux programme que le Seigneur veut inscrire dans ce journal. Des paroles d'avenir, de l'espérance, je te protégerai, n'aie pas peur du lendemain, je serai avec toi, je serai avec vous tous les jours de la vie. Et combien de textes on pourrait rajouter pour étayer le fait que Dieu nous offre un avenir et de l'espérance, le paradis, et je répète, les vacances éternelles, tout ça, amen. Il veut y inscrire aussi son nom. Puissions-nous avoir son nom inscrit dans notre vie, dans notre cœur, sur le journal de notre vie. Apocalypse 3:12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Dieu veut inscrire dans nos cœurs un nom. Il y a un nom qui résonne dans nos pensées, nous qui croyons en celui qui a payé un si grand prix pour nous sauver. Un nom qui est là, Jésus, le nom de Jésus, qui est là, le nom de l'Éternel. Et on se cite les différents noms qui nous sont donnés dans la Bible. El Shaddai, on a vu cet après-midi, Dieu Tout-Puissant, celui qui peut tout faire, il est Tout-Puissant. Si on est dans ses mains, il nous garde. Combien même il y a des flammes autour de nous, je sais ce que je dis. On est en paix, combien même il y a la tempête. On garde le sourire, on garde la joie, parce que celui qui nous garde, celui qui a inscrit son nom dans notre vie, son nom dans notre cœur, eh bien, il peut tout faire, tout puissant. Celui qui nous guérit, on pourrait citer tous les noms du Seigneur. Amen. Et que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça aussi, important. Comme M. Gaulle prêchait une fois, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? C'est une question. Vous savez comment il est inscrit notre nom dans le livre de vie? Simplement en faisant la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que avec toi la vie n'est pas une fatalité, n'est pas une suite d'événements que nous ne contrôlons pas ou qui sont tout simplement incontrôlables. Avec toi, la vie est paisible. Non pas parce qu'il n'y a pas de chute, non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous rassures, tu nous donnes des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, tu inscris des choses dans notre vie. Je voudrais, Seigneur, à nouveau te donner ma vie ce soir encore pour que tu inscrives tous les jours, toi, des paroles. Je ne veux rien écrire moi parce que je ne sais pas ce qu'il me faut, mais toi, tu sais toutes choses. Tu connais mes problèmes, tu connais mes soucis et tu veux inscrire des nouvelles pages, des paroles d'espérance, des expériences merveilleuses avec toi. Et j'en ai beaucoup à raconter. Merci pour ce que tu as déjà écrit. Continue, Seigneur, à composer ma vie comme un grand musicien. Je ne sais pas comment utiliser, quel mot utiliser pour parler de toi. J'aurais aimé avoir 1000 voix comme ce chant dit, le chante, mais simplement, Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux et que ce soit le souhait de chacun d'entre nous ce soir. Amen.